BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse. Étienne Brack.
17h pile, on est ensemble encore pendant une heure. C'est BFM Bourse, c'est BFM Business. Ça se passe très bien en bourse, hein, que ce soit du côté du CAC 40 qui gagne 0,8% au-delà des 6700 points, 6723 points, des niveaux que l'on n'a pas vu depuis avril dernier, porté notamment par le secteur du luxe. Hermès en tête, plus 4,5%, 1552 euros. LVMH, plus 3,5 à 726 euros. Après des informations en provenance de Chine cette nuit sur une légère baisse du nombre de contaminations et puis surtout des assouplissements dans certains cantons, et donc suite à cela le marché qui se met à espérer et qui achète les perspectives futures en termes d'assouplissement du côté de l'Asie. Ça porte le secteur pétrolier également, puisque vous avez un baril de pétrole qui gagne plus de 3% à 87 dollars. Et puis du côté des publications, ça se passe très bien hors CAC 40 pour Trigano qui gagne plus de 6% à 119 euros, après avoir publié des résultats records hier soir, résultats annuels portés notamment par une forte demande des camping-cars, des caravanes, des hausses de prix qui passent. Le marché qui achète la nouvelle. Et puis à l'inverse, c'est un peu plus compliqué pour Nexans et Rexel. On est dans le secteur des câbles qui perd du terrain aujourd'hui. Nexans, moins 6%, 83,90 euros. Dans un instant, c'est le club qui s'ouvre. Mais juste avant, Faïza Younzi nous rejoint pour l'essentiel de l'actualité économique du jour.
BFM Business, l'info éco.
Et on commence par cette inflation qui recule en zone euro en novembre à 10% sur un an contre 10,6% le mois précédent. C'est la première baisse depuis quasiment un an et demi. En France, la hausse des prix se stabilise à 6,2% d'après l'INSEE. Avec deux tendances contradictoires, les produits alimentaires continuent à coûter de plus en plus cher alors que les prix de l'énergie, eux, ralentissent. L'inflation, elle pénalise la consommation des ménages français. Elle recule nettement en octobre de quasiment 3%. C'est sa plus forte chute depuis le printemps 2021, de quoi freiner la croissance. Elle fléchit au troisième trimestre à plus 0,2%. Aux États-Unis, la croissance a été finalement plus forte que prévu au troisième trimestre à 2,9% en rythme annuel contre 2,6% selon la première estimation. Et toujours aux États-Unis, Emmanuel Macron vient de démarrer sa visite d'État qui doit durer 3 jours. Il rencontre en ce moment même la vice-présidente Kamala Harris autour du spatial, un an après la brouille provoquée par l'affaire des sous-marins australiens. Paris et Washington scellent leur réconciliation. Dans l'actualité des entreprises, l'alliance de Renault et Airbus sur la batterie du futur. Les deux groupes veulent développer ensemble une nouvelle technologie qui permettrait non seulement d'allonger l'autonomie des voitures électriques, mais aussi d'aider à l'électrification des avions. Vaste plan de suppression de postes chez H&M, 1500 emplois en moins pour réduire les coûts. Le géant de l'habillement fait face à la baisse de la demande dans le contexte de forte inflation qu'on connaît. Et c'est la même situation pour DoorDash qui licencie à 15% de ses effectifs aux États-Unis, soit 1250 emplois. Après avoir grossi pendant la pandémie, la plateforme américaine de livraison de repas veut elle aussi maîtriser ses coûts. Attention, si vous devez prendre le train ce week-end, grève surprise des contrôleurs à la SNCF. 6 trains sur 10 annulés de vendredi à dimanche. D'autres grèves sont prévues en décembre, y compris pendant les fêtes de Noël, alors que les négociations salariales viennent de démarrer. Ce soir, on vous donne rendez-vous sur notre antenne avec Antoine Monin, le directeur général France de Spotify. Il sera l'invité de Good Evening Business à 19h15. Et puis, il y aura aussi Sidonie Dumas, directrice générale de Gaumont. Elle sera l'invitée d'Edwige Chevrillon dans la grande interview à 19h30. Tout de suite, restez avec nous. Étienne Brack pour la suite de BFM Bourse.
BFM Business. BFM Bourse. Le club.
Le club qui s'ouvre jusqu'à 17h35, jusqu'à la clôture, avec nos deux invités, David Go, partenaire et CEO de Béduran Capital Partner. Bonjour, bonjour, merci de nous accompagner aujourd'hui, avec notamment Thierry Leclerc, président d'AlphaJet Fair Investors. Bonjour Thierry.
Bonsoir.
Merci de nous accompagner aujourd'hui pour nous aider un petit peu à décrypter la séance du jour, pour nous aider à décrypter les derniers indicateurs macroéconomiques, surtout si la semaine dernière on avait un agenda qui était assez creux. Cette semaine, il y a beaucoup d'indicateurs, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe. Faïza en parlait il y a quelques instants, cette inflation en zone euro qui est toujours très importante, 10%, mais David qui ralentit un petit peu, et donc le marché achète la nouvelle, même si on est surtout toujours plutôt sur une inflation à 10% le mois dernier en zone euro.
Tout à fait, on reste sur des chiffres quand même extrêmement élevés.
Alors on sait que graduellement jusqu'au mois de mars et avril, on va avoir des chiffres qui baissent, hein, puisque quand on regarde les prix du pétrole, en fait, le gros de la hausse est arrivé cette année aux alentours du premier trimestre. Donc on va avoir un effet de base qui va jouer plus favorablement. Pareil pour les matières premières alimentaires, comme le prix du blé par exemple, où année sur année on est en hausse de 3 à 4% hein, d'après le prix des contrats. Donc il va y avoir certaines améliorations, mais on reste sur des niveaux qui sont extrêmement élevés et finalement qui ne répondent pas aux attentes des banques centrales, qui ne répondent pas aux objectifs en fait de contrôle sur de la part des banques centrales. Et donc ce scénario que les marchés enregistrent actuellement d'une possible allègement de politique de resserrement monétaire aux États-Unis, en Europe, risque selon nous d'être douché. Et on risque d'être surpris par la discipline dont vont faire preuve les banques centrales pour continuer à lutter contre cette inflation. Donc la hausse des marchés actuels, pour nous, c'est plus une opportunité de rebalancer et de baisser certaines positions que de rajouter.
On en reparlera dans un instant, mais Thierry Leclerc, c'est quand même assez frappant quand on regarde la situation en Chine qui est toujours mauvaise, il faut le dire, quand on regarde l'inflation qui est toujours mauvaise en zone euro, on en parlait à l'instant, 10%, mais à chaque fois, il suffit d'une très légère amélioration pour satisfaire les marchés.
Ouais, c'est le principe de faire mieux que ce qui est attendu par le consensus. Hein, les marchés sont toujours sur la nouvelle incrémentale justement qui n'était pas prévue. Donc là, le consensus était à 10,4%, je crois, sur l'inflation d'attente, et on a fait 10%. Donc c'est quand même un résultat meilleur donc que ce qui est prévu, donc le marché le salue. Alors c'est vrai que il y a quelques années, il y a deux ans, on nous aurait dit bon, l'inflation sera à 10%, ça, le marché le prendra bien. On serait dit oula, il y a quelque chose qui nous a échappé. Ce qui nous a échappé, donc c'est la crise du Covid, avec les répercussions, on connaît l'histoire. Mais oui, effectivement, donc c'est une nouvelle en tout cas qui est prise positivement par le marché. Et puis sur la Chine, vous le signaliez aussi, on a des tout petits signes effectivement que peut-être la politique zéro Covid pourrait être très légèrement assouplie. Donc aussi c'est la nouvelle incrémentale qui était attendue. Donc le marché la salue. Et notamment, pour ce qui concerne l'Europe, sur les valeurs de luxe qui peuvent bénéficier de ça, sur la consommation chinoise si elle repartait. Ça n'occulte pas le fait que la situation chinoise globalement est quand même pas super positive. On pense, en tout cas nous, à moyen long terme. Mais là, effectivement, on va avoir certainement un flux de bonnes nouvelles sur le Covid, parce que à un moment, quand vous avez des manifestations dans la rue, etc. Les gens n'en peuvent plus, quoi, tout simplement. Donc il faut alléger un petit peu. Et puis ça fait trop longtemps que ça dure, cette situation. Donc à un moment, on apprend à vivre avec le Covid. Je pense qu'eux aussi, ils sont un peu dans cet état d'esprit-là et à gérer la situation autrement que tout fermer systématiquement. Donc voilà, les nouvelles qui étaient les surprises, les petites surprises. Mais on voit que le marché, il est assez, il démarre en tout cas au quart de tour sur les moindres bonnes nouvelles. Et ça, par contre, nous, c'est plutôt un signe positif. Parce que ça fait quand même... je parle pas bien sûr pour vous, hein, mais ça fait quand même quelques mois qu'on entend des discours très, très prudents sur les actions. 20% plus tard, on a toujours ces discours prudents. Et puis le marché, il a sa propre vie. En tout cas, je parle des actions. Et il démarre. Et puis, quand il y a des bonnes nouvelles ou ce qu'on pourrait... estimer que c'est une nouvelle, c'est quand même pas génial et que c'est pas forcément, il n'y a pas de quoi renverser la table, mais bien le marché pourtant continue de monter sur ces nouvelles-là. Donc c'est plutôt quand même des signes encourageants pour les actions en tout cas.
Sachant que ce qui est impressionnant, c'est que la semaine dernière, quand on avait une situation qui se dégradait, le luxe ne perdait pas 4%. C'est-à-dire que là, il y a des bonnes nouvelles, il prend 4%, mais quand il y a des mauvaises nouvelles, il ne baissait pas en fait ces derniers jours.
Ouais, alors après, sur le luxe, quand on regarde quand même... alors là, je vais revenir quelques semaines en arrière, mais les chiffres qu'ils ont publiés au T3... là je pense que chapeau bas quand même, hein, puisque on a une croissance de 20%, 19% au troisième trimestre pour LVMH, avec la marque Louis Vuitton qui est à plus de 20%, Hermès 24% de croissance organique, hein, 34% de croissance avec les effets devises. Enfin, c'est des résultats qui sont juste très, très costauds. Donc, c'est vrai qu'il y a des inquiétudes. Tout le monde se dit, mais bon, à un moment, ça va bien finir par s'arrêter, cette histoire de luxe. Mais en tout cas, on voit rien aujourd'hui sur les chiffres. Les boîtes restent sereines, elles continuent d'augmenter leur capacité. Et en Chine, effectivement, bah, il y a eu une situation un peu compliquée. Mais on a plutôt, peut-être, devant nous, des nouvelles qui seront un peu moins mauvaises. En tout cas, je parle par rapport à la politique zéro Covid dont on parlait juste précédemment.
Ouais, le secteur du luxe a réussi à avoir une croissance et dépasser les attentes, même sans la Chine, au final. Hein, c'est un petit peu ce qui
s'est passé. C'est ça. Pour le luxe, le dollar, c'est quand même l'appréciation du dollar, c'est une très bonne nouvelle. On est sur Paris, on voit bien la queue devant les magasins à Paris. Il n'y a pas du tout de disparition du tourisme de luxe, notamment de cette zone-là. Et puis, aux États-Unis aussi, ça se passe très bien. Donc, même si localement, il y a quelques difficultés par-ci, par-là, notamment en Chine, donc sur le deuxième trimestre, sinon, c'est la demande pour les produits de luxe n'a pas disparu. Et donc, on a des chiffres au global, puisque c'est des sociétés globales qui sont partout. Donc, elles font jouer les vases communicants. Et donc, il y a toujours une zone géographique qui s'en sort bien, vu que la demande reste très soutenue.
David Go. Oui, non, vous voulez réagir par rapport...
Oui,
je voyais acquiescer, c'est pour
non,
ça.
Non, c'est vrai qu'il y a... Enfin, on est un petit peu plus prudent dans le sens où on sait qu'il y a un effet retard dans toutes ces tendances actuellement. C'est-à-dire qu'on voit les chiffres américains, par exemple, hein, de croissance, de consommation, ils sont encore extrêmement élevés. Mais on sait aussi que les retournements de tendance sont extrêmement brutaux. C'est-à-dire que les mauvais chiffres peuvent venir extrêmement rapidement. Et quand même, la grande question, c'est ce resserrement du crédit, notamment aux États-Unis, on est en train quand même d'en faire l'expérience dans l'immobilier, au niveau de la consommation, on est en train de le voir aussi au niveau des sociétés elles-mêmes. Donc tous ces resserrements, il y a toujours un moment où ça vient avoir une implication sur l'économie. Alors, entièrement d'accord sur le luxe, qui sont des secteurs globaux, qui vont bénéficier d'une zone, puis ensuite d'une autre zone. Et c'est vrai que la Chine est un peu contracyclique, vraisemblablement, hein, dans cette phase. Donc, un redémarrage de la Chine va aider. C'est aussi un secteur qui est capable d'augmenter ses prix sans faire fuir ses clients. Donc, ça aussi, c'est précieux quand il y a de l'inflation. Mais pour nous, il paraît difficile qu'on ne fasse pas l'économie d'une phase de baisse quand même assez forte et assez soudaine et qui va vraisemblablement arriver en 2023 avec cette combinaison d'inflation encore très forte, des effets de la hausse des taux qui, avec un effet retard, finit par vraiment rattraper finalement les consommateurs, et puis des coûts de l'énergie qui restent encore très élevés. Et donc, ça va être un jeu relatif et entièrement d'accord sur le luxe et d'autres secteurs qui vont mieux tenir. Mais un warning un petit peu sur ces changements qui sont d'une semaine à l'autre, on peut avoir des chiffres qui vont se détériorer très rapidement sur le premier trimestre l'année prochaine.
Non, parce que vous parlez de la croissance, on a eu les chiffres actualisés de la croissance aux États-Unis tout à l'heure, hein, chiffres qui ont été revus à la hausse avec une croissance qui est toujours très solide, hein, plus 2,9% en rythme annualisé dans cette deuxième estimation, après 2,6% lors de la première estimation. On parle du troisième trimestre, ce qui montre bien que malgré les hausses de taux, on a une inflation aux États-Unis qui est toujours présente, on a une croissance qui est toujours là. Et dans ce contexte, Jérôme Powell qui va devoir prendre la parole ce soir et qui va devoir peser ses mots une fois de plus.
Et comment est-ce qu'il pourrait véritablement changer sa politique à ce stade-là, quand on a des chiffres économiques qui sont aussi bons et quand on sait derrière que ces chiffres sont quand même principalement alimentés par du crédit qui est en train de véritablement grossir très fortement aux États-Unis. Donc, tout milite pour que la Fed maintienne quand même une politique aussi disciplinée que possible et un peu plus restrictive plus longtemps. Donc, c'est là aussi, on pense que les marchés risquent d'être déçus par le ton, en fait, de la Fed. Et qu'on ait, on ait véritablement une combinaison, encore une fois, sur la première moitié de l'année prochaine, où on a des chiffres de consommation et des chiffres de résultats de société qui se détériorent. Et en même temps, on a des banques centrales qui ne changent pas encore de direction. Elles finiront par le faire, mais on sait historiquement, les banques centrales, elles changent véritablement que quand il y a un événement de crédit, un gros accident de crédit. Et c'est ça qui fait que, généralement, on change de tendance. Ce n'est pas une croissance une stagflation ou une croissance qui est relativement faible. C'est plus véritablement le danger d'un problème majeur global de liquidité. Et ça, c'est le risque qu'on court vers, avec cette tendance à la fois de très forte discipline monétaire et en même temps de croissance qui va ralentir dans les mois à venir.
Thierry Leclerc, chez AlphaJet, comment vous voyez la situation aujourd'hui par rapport aux indicateurs que l'on vient d'évoquer, hein, que ce soit en termes de croissance, d'inflation, et puis dans le même temps, une Fed qui voit bien que ses actions, elles prennent du temps avant d'avoir des répercussions. Hein. Jérôme Powell l'a encore dit lors de sa dernière réunion, les hausses de taux mettent plusieurs semaines avant de se traduire dans les chiffres.
Donc c'est sûr que ça serait vraiment hyper contre-productif pour Jay Powell d'avoir un discours trop dovish, hein, comme on dit, c'est-à-dire de simplement dans son discours marquer une inflexion, parce que le but c'est justement que l'inflation soit désancrée, donc de continuer de dire on va être là, on va pas vous faciliter la tâche parce que la demande doit réduire, hein, pour réduire l'inflation, il y a pas, si vous voulez pas toucher à l'offre, il faut s'adresser à la demande. Donc aujourd'hui il doit absolument continuer d'avoir un discours très ferme. Ceci étant dit, quand on regarde dans le rétroviseur sur 2022, on a eu 400 points de base de hausse des taux aux États-Unis, quoi. Et ça, c'était dans aucun scénario en début d'année. Et il va y avoir encore des hausses de taux, hein, puisqu'aujourd'hui, l'atterrissage est autour de 5,25. Mais donc, la bonne nouvelle, quand même, c'est toujours pareil. La nouvelle incrémentale, c'était qu'il y avait une hausse des taux à absorber à un moment de 500 points de base. Pour mettre des taux à un niveau où l'inflation va être jugulée. En tout cas, c'est ce que disent les modèles et c'est ce que pense la Fed. Et là, on a eu le plus gros. On a encore certainement 50 points de base. Bon, on verra bien, 50-75 points de base là en décembre. Peut-être deux fois 25 points de base en début d'année 2023. Et puis après, ça va être une période de stabilité du côté de la Fed. Et évidemment, ils vont pas tout de suite changer de braquet et dire on va baisser les taux. Mais en tout cas, on aura absorbé sur les marchés cette hausse des taux. C'est ça qui pénalise quand même, hein. C'est quand les taux montent, dans vos valorisations, forcément, vous mettez pas les mêmes taux d'actualisation, donc les valorisations s'effondrent. Ça a été fait. Et aujourd'hui, moi, je suis pas. C'est plus quelque chose qui m'inquiète fondamentalement. Les banques centrales, leur politique monétaire, on sait à peu près où on va. Alors que entre 2021 et 2022, ça a été quand même assez confus de leur part, et d'où la volatilité qui a été engendrée sur les marchés. Quand les banques centrales, vous ne les sentez pas tout à fait bien tenir la barre, le cap, ou en tout cas, elles ne savent même pas exactement où elles veulent aller, les marchés sont dans un très fort environnement de volatilité. Et c'est ce qui s'est passé en 2022. Et là, aujourd'hui, le cap, il est fixé, on sait où on va. Et c'est plus ça vraiment qui fera mal sur la valorisation des marchés actions. C'est absorbé. Et peut-être on peut même. Alors, faut pas être suroptimiste. Et à nouveau, hein, c'est pas pour contredire ce que je viens de dire qu'il faut que les discours soient maintenus durablement. Par contre, à horizon de quelques trimestres, peut-être fin 2023, on pourra commencer à entendre des discours un petit peu différents du côté des banques centrales, notamment américaines. Mais là, on aura le temps évidemment de se revoir et de se reparler à ce moment-là. Mais pour moi, sur les banques centrales, plutôt des nouvelles, en tout cas américaines, en tout cas absorbées par les marchés. Et donc, éventuellement, la nouvelle incrémentale, ce serait plutôt une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle.
On verra dans un instant comment ça se concrétise en termes d'allocation. Juste avant, on va faire une très courte pause et puis on va rejoindre également Sabrina Colliodi qui nous attend du côté des États-Unis pour faire un point sur la tendance à Wall Street qui est pour l'instant en ordre dispersé. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.
BFM Business. BFM Bourse. Le club.
Le club qui se poursuit encore pendant un peu plus de 10 minutes jusqu'à la clôture. Mais juste avant, on rejoint Sabrina Colliodi qui nous attend depuis New York pour faire le suivi de cette séance. Avec pour l'instant, Sabrina, séance en ordre dispersé. Dow Jones dans le rouge, Nasdaq dans le vert. Un petit peu d'hésitation avant la prise de parole de Jérôme Powell. Ce sera à 19h30 pour nous, heure française.
Oui, c'est le grand rendez-vous de la journée. Dernier grand rendez-vous avec la réunion du 13 et 14 décembre prochain pour statuer sur les taux d'intérêt. Car c'est la grande question. Quelle sera la tonalité de ce discours aujourd'hui? Est-ce qu'on va avoir quelques indices sur l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine? Après quatre hausses d'affilée de 75 points de base, le marché attend plutôt pour décembre une hausse de 50 points de base, alors que l'on a eu des statistiques mitigées aujourd'hui, un chiffre de l'emploi qui s'essouffle, 127 000 créations de postes selon l'enquête ADP dans le secteur privé contre 190 000 sur le mois d'avant contre 239 000 sur le mois d'avant et un consensus aux alentours de 190 000. En revanche, du côté du PIB, la croissance, on est sur une révision à la hausse, plus 2,9% sur le troisième trimestre contre 2,6% en première estimation. Dans ce contexte, on est donc effectivement hésitant. L'obligataire, on garde un œil sur le 10 ans américain avec une légère tension de ce côté-là, 3,78. Le pétrole est en hausse également aujourd'hui. On repasse au-dessus des 80 $. L'actualité entreprise marquée essentiellement par Netflix avec une note positive de KeyBank qui estime que le succès de la nouvelle série de la famille Adams devrait profiter à Netflix. Et puis aussi quelques résultats d'entreprise dans la cybersécurité. Vous avez CrowdStrike qui a publié des chiffres inférieurs aux attentes. Le nombre d'abonnés notamment est inférieur au consensus. En revanche, Petco, spécialiste des animaux domestiques, publie des chiffres supérieurs aux attentes. Réaction positive là sur le titre Petco. En revanche, du côté de CrowdStrike, donc c'est une baisse de 20% et Netflix plus 2,4% dans une tendance donc partagée sur ces marchés américains. On a un Dow Jones qui cède 0,5%, le S&P 500 de son côté 0,2%, le Nasdaq tente de résister, on se maintient au-dessus des 11 000 en progression de 0,2%. Etienne.
Merci beaucoup Sabrina Quagliozzi qui nous accompagnait depuis New York et donc le club qui se poursuit avec nos deux invités, David Go, partenaire et CEO de Bédurant Capital Partner, et Thierry Leclerc, président de Alpha Jetfair Investors. On a adressé dans la première partie de ce club un petit peu les indicateurs, le constat du climat actuel. Maintenant, il y a une question qui se pose et que tous les gérants et même que tous les particuliers en bourse se posent, c'est comment on arbitre son portefeuille aujourd'hui dans un environnement qui est très incertain, où il y a beaucoup de questions sans réponse. Comment aujourd'hui on arbitre un portefeuille chez Alpha Jet Fair Investors, Thierry Leclerc? Quels sont les secteurs que vous privilégiez? Et puis surtout, est-ce que c'est le moment d'aller sur le marché après un rallye de 20% ou est-ce que c'est plutôt le moment de s'alléger? On a entendu tout à l'heure David Go qui était plutôt sur la vente.
Ouais, non mais bon, moi j'ai pas de boule de cristal non plus, hein, évidemment. Donc, par contre, ce qu'on voit, c'est que justement le point bas du marché a peut-être été atteint donc le 29 septembre. On a rebondi quand même fortement. C'est une bonne nouvelle pour le marché. Hein. Enfin, je veux dire, la meilleure des nouvelles pour savoir s'il faut revenir sur les actions, c'est d'attendre le rebond. On n'achète jamais au point bas. Par contre, quand on voit qu'il commence à rebondir, c'est peut-être un moment, en tout cas, pour reconsidérer sa position, parce que c'est vrai que objectivement, quand on regarde la situation macroéconomique, le flux de nouvelles, c'est mauvais. Mais comme je vous l'ai dit, c'est toujours la nouvelle incrémentale. Donc le marché, il a un coup d'avance sur ces nouvelles-là. Et donc peut-être que cette récession qui se profile en 2023 a déjà été intégrée par les marchés. Bon, faut rester prudent, évidemment. Mais c'est ça aussi le message qui nous est envoyé par le marché. Donc moi je serais plutôt positif. On attend, pour être très franc, on attend encore quelques. Quand on regarde notre cockpit pour savoir si les actions c'est tout vert, il y a du orange, il y a du rouge, il y a des points encore orange, rouge. Donc c'est pas tout vert ce qu'on a en face de nous, mais par rapport à il y a quelques semaines, ça s'est nettement verdi. Donc ça c'est la bonne nouvelle pour nous. Donc on a, c'est ce qu'on dit d'ailleurs à nos clients, qu'on a des choses quand même plus solides par rapport à construire des positions sur les marchés actions. Ensuite, pour répondre à la question de qu'est-ce qu'on fait dans les portefeuilles, justement, compte tenu de cet environnement quand même qui reste incertain, et je dirais vraiment pas le contraire, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de pas être trop typé dans ses portefeuilles et d'avoir une bonne diversification sectorielle, géographique, et où par exemple le biais traditionnel, c'est value growth. Nous, on fait les deux dans nos portefeuilles parce que la value, quand on regarde la value hors USA, on est sur des niveaux qui sont les moins chers On est dans le premier pourcentile de valorisation sur longue période depuis 1990. Donc ça veut dire quoi ? Dit autrement, ça veut dire qu'on a vraiment des niveaux de valorisation sur les titres value qui sont très attractifs aujourd'hui hors USA. En USA, on est un peu plus cher, mais sur le reste des marchés, on a un très bon argumentaire sur la valorisation, sur des titres qui sont pas chers. Sur la croissance, si l'environnement devait être récessionniste, on sait très bien que c'est plutôt les titres de qualité et de croissance qui fonctionnent bien. Donc aujourd'hui aussi, on a quand même eu un petit peu de dégonflement de valorisation sur certains secteurs. Donc ce qui fonctionnait précédemment continue de fonctionner. On parlait du luxe tout à l'heure. Enfin, les fondamentaux du secteur n'ont pas disparu du jour au lendemain. Et par contre, on a des niveaux de valorisation qui sont plus raisonnables. Donc on est intéressé aussi par ce secteur-là.
Donc fait un mix croissance-value.
Croissance, qualité, value, c'est vraiment les choses qu'on met en portefeuille parce que, pour le coup, là, je vous parlais de nos cockpits, c'est des choses qui, aujourd'hui, ont des clignotants verts et donc, forcément, on les met logiquement plutôt en portefeuille et on ne veut pas prendre de risques, justement. De toute manière, on n'est pas là pour prendre des risques. Moi, je dis souvent que la diversification, c'est le seul free lunch qu'on a dans la finance, donc autant en bénéficier, c'est-à-dire dire que vous avez toujours un intérêt à diversifier vos portefeuilles. Donc nous, je parle pour AlphaJet, on n'aura jamais des portefeuilles qui seront trop typés, mais là, particulièrement en ce moment, effectivement, ça ne nous dérange pas d'avoir à la fois de la value, à la fois de la croissance, et on trouve de l'intérêt sur ces deux typologies de marché de titres.
David Gauche et B. Durand Capital Partner, comment aujourd'hui on arbitre les portefeuilles ? On a bien compris tout à l'heure là sur les niveaux actuels, vous avez plutôt tendance à vous alléger.
On est prudent parce que, encore une fois, quand on regarde la rémunération du cash, par exemple aux États-Unis actuellement, vous pouvez placer de l'argent à 6 mois aux États-Unis, vous allez obtenir entre 4 et 5% de rendement. C'est très élevé. Ce sont des chiffres extrêmement élevés qui font que, en termes de flux, on ne va pas avoir un retour massif vers les marchés actions, surtout dans un contexte où les sociétés risquent à un moment ou à un autre, de décevoir dans les mois à venir. Donc, je suis entièrement d'accord. Acheter des belles valeurs, c'est toujours le bon moment d'acheter des belles valeurs. Et quand il y a des effets un peu de baisse ou qu'ils soient temporaires, c'est vrai qu'avoir un cœur de portefeuille action de belles valeurs de qualité, c'est indispensable. Sur le moyen long terme, c'est finalement avec le private equity ce qui paye le plus. Donc ça, c'est. Par contre, là, dans le contexte plus précis, on peut avoir des outils qui sont un petit peu plus précis, comme des produits structurés, par exemple, sur lesquels ça vous permet de vous positionner finalement sur des indices boursiers, mais avec un élément de protection si jamais on avait un effet de baisse de l'ordre de 20 à 30%. Et puis, c'est aussi justement parier sur cette notion de rendement, c'est-à-dire arriver à extraire 6, 7, 8, 9% de rendement annuel dans un contexte extrêmement volatile. Et ces 7, 8, 9%, finalement, ils couvrent cette inflation moyen-long terme. Ils sont aussi au-dessus de cette rémunération du cash. Alors, en Europe, on n'est pas encore à ces niveaux-là, mais aux États-Unis, on est à 4-5%. Donc, essayez de trouver un petit peu ces outils d'investissement assez spécifiques qui vous offrent à la fois de la protection et puis un rendement raisonnable qui vous permettent de battre l'inflation et puis d'attendre un petit peu des moments meilleurs. Et puis, vous avez tout un tas d'outils alors au niveau des fonds avec ce qu'on appelle les solutions d'absolute return, qui sont finalement des équivalents de hedge funds, mais qui sont liquides, donc on peut traiter tous les jours, et qui sont des solutions qui à la fois achètent et vendent le marché, et donc ont pour logique de faire baisser un petit peu la volatilité, les grands mouvements de marché. Et sur l'obligataire notamment, l'année 2022 a été une année extrêmement intéressante pour ces outils, qui sont assez peu connus, mais qui ont maintenant toute leur raison d'être à côté des fonds fondamentaux. C'est-à-dire que c'est entièrement d'accord avec l'approche. On est dans de la diversification. Il y a un cœur de portefeuille qui est action, belle société. Et puis, on a des outils autour, une série d'outils qui peuvent compléter en fait l'équipement et qui permettent finalement de se positionner sur le moyen long terme.
Question un peu cash, mais si demain on a un CAC 40 à 7000 points, vous seriez surpris ou pas ? Au final, c'est 5%. On pourrait se retrouver facilement sur les niveaux de début d'année. On était à 7300 points.
À court terme, on peut avoir des mouvements dans toutes les directions parce que on est dans l'interprétation de ce que nous disent les banques centrales. Et donc, une banque centrale qui serait un petit peu plus accommodante, les volumes sont pas extrêmement élevés sur les marchés actuellement. Donc, ça peut partir à la hausse assez rapidement. Pour nous, ça serait l'occasion finalement d'être encore un peu plus prudent. Et on aimerait quand même voir cette phase où les sociétés vont malheureusement publier des chiffres qui déçoivent, qui sont en décalage par rapport à leur équivalent l'année d'avant, et puis avec possible accident de crédit qui ferait que les banques centrales doivent revoir un petit peu leur copie. Et c'est cet événement-là qu'on attend.
Thierry Leclerc, il nous reste une minute par rapport à ce qui vient d'être dit. Vous avez peut-être envie de compléter, puis aussi sur le rallye de fin d'année. Là, en effet, comme le disait David, où il y a assez peu de volume, mais au final, où on a l'impression qu'on a des investisseurs qui courent après le papier. Là, Hermès qui gagne quasiment 5%. Est-ce qu'il y a beaucoup de fondamentaux derrière? Est-ce qu'il y a beaucoup d'achats de conviction? C'est la question qui se pose.
Alors, c'était dans les clignotants qu'on a dans le tableau de bord. Effectivement, il manque un peu la partie volume. Donc ça, vous voyez, avoir un fort rebond avec des volumes élevés, ça coche les cases. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu ça tout à fait. C'est pour ça qu'il faut quand même rester un petit peu prudent sur les signaux qui sont envoyés par le marché. Après, je dirais juste quand même sur les sociétés. En fait, un environnement inflationniste, c'est pas forcément négatif pour elles. Donc, jusqu'ici, on a quand même eu plusieurs trimestres d'inflation et elles s'en sont pas si mal sorties que ça. Alors, c'est toujours difficile de faire des grandes généralités, mais en tout cas, on n'a pas eu des vagues massives de profit warning et de sociétés. Les discours des sociétés sont évidemment prudents parce que sortir du bois aujourd'hui en disant « je vais investir », etc., c'est compliqué. D'ailleurs, le conference board aux États-Unis interroge les CEO des sociétés américaines tous les mois et on est sur un plus bas historique. Et c'est intéressant parce que ces points bas historiques, c'est des plus bas de marché aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui me laisserait à penser que on a peut-être le plus bas derrière nous parce que l'environnement est assez. En tout cas, les PDG des boîtes américaines ont du mal à se projeter positivement, même si aujourd'hui les résultats sont globalement de bonne facture.
Merci beaucoup Thierry Leclerc qui nous accompagne aujourd'hui, président d'AlphaJet for Investors. Merci également à David Go qui nous a rejoint tout à l'heure en studio, donc pour ce club d'une demi-heure. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs en replay sur BFM Business. David Go, donc partenaire et CEO de B Durand Capital Partner. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. 17h34 dans un instant, c'est le fixing. On retrouvera Aude Kersulek qui nous attend depuis Euronext. À tout de suite. 17h35 pile, c'est l'heure d'aller à Euronext, c'est l'heure de la clôture pour le CAC 40 qui clôture en hausse ce soir, une hausse de plus d'1%. Il retrouve les 6700 points et donc on retrouve Aude Kersulek pour une séance qui a été drivée une nouvelle fois par le secteur du luxe ce soir. Aude.
Oui, après une séance stable hier, la hausse du jour, elle est quand même bien, elle est quand même assez forte, plus de 1%, 1,04% pour ce CAC 40, 6738 points. Ça progresse aussi sur les autres indices européens, un petit peu moins fort, plus 0,7% sur l'Eurostock 50, plus 0,3% pour le DAX à Francfort. Et oui, si on surperforme ici à Paris, c'est bien grâce à nos valeurs du luxe, plus 5% pour LVMH en clôture, plus 7,37,4 euros, plus 4% pour Hermès, 1542 euros. On a aussi Kering, L'Oréal ou Total Energy, autre grosse capitalisation qui progresse ce soir de plus de 2%. Le luxe qui progresse, voilà pourquoi le match est plié aujourd'hui. On a aussi des baisses qui sont un petit peu moins impressionnantes, Sanofi qui baisse de quasiment 2% à 86,48 euros, dans un volume qui est toutefois élevé aujourd'hui, plus de 7 milliards échanger sur ce CAC 40, c'est quand même à noter. Et puis d'autres variations, alors là c'est sur le SBF 120, une belle hausse pour Trigano après ses résultats annuels dévoilés, des résultats en forte progression et puis des perspectives aussi encourageantes, notamment sur la demande qui reste fort pour les qui reste forte pour les camping-cars, plus 6,8% à 119 euros pour Trigano. En revanche, secteur en baisse, c'est le secteur du raccordement électrique Rexel Nexans qui baisse ce soir de plus de 6% après des dégradations de recommandations. Le volume d'échange du jour, on est donc à 7 milliards. Le CAC 40 qui progresse de plus de 1% ce soir. Et le bilan du mois de novembre, puisque c'était la dernière séance du mois, il est plutôt positif puisqu'on en progresse de plus de 7% pour ce mois de novembre. Donc c'est quand même un rallye de fin d'année qui est bien entamé pour cet indice parisien qui finit ce soir à 6738 points, Étienne.
Merci beaucoup, Aude Kersulek, qui nous accompagnait donc pour la clôture. Clôture dans le vert, au-delà des 6700 points. Très beau mois de novembre également. Tout de suite, on refait la séance.
BFM Business, BFM Bourse, on refait la séance.
On refait la séance avec nos deux invités, Julien Kistreber qui est avec nous aujourd'hui en plateau, directeur des investissements chez Montségur Finance. Bonjour Julien.
Bonsoir.
Merci de nous avoir rejoints. On vous retrouvera d'ailleurs à 18h sur LinkedIn, Twitter, Facebook avec Amaury de Tonquédec. N'hésitez pas à poser vos questions à Julien, bfmbourse@bfmbusiness.fr. Et on a également le plaisir de rejoindre depuis Annecy Franck Morel qui est président de Zone Bourse, qui va également nous aider à refaire cette séance, car il y a de quoi dire. En effet, très beau mois de novembre Julien, très belle séance également, dopée par le secteur du luxe, hein, une fois de plus. LVMH en tête, plus 5%, 737. Hermès, plus 3,9% à 1542. Quelques légers signaux positifs en Chine, sur les cas, sur des mesures très légères d'assouplissement, et le marché qui achète la nouvelle et qui s'envole sur ses valeurs, hein, Julien.
Oui, très clairement, un environnement chinois qui, au vu des mouvements sociaux, on voit que le gouvernement est en train de changer son discours. D'ailleurs, j'écoutais l'ambassadeur qui intervenait sur votre autre chaîne, donc BFM Classique à l'instant. Donc des mesures de quarantaine qui vont être réduites. Bon, il insistait sur le fait que les gouvernements locaux s'étaient un petit peu emballés sur les mesures restrictives et que le gouvernement central essayait de remettre de l'ordre dans tout ça. Bon voilà, donc évidemment la Chine, très importante pour la consommation des produits de luxe, donc mécaniquement un petit peu de soulagement. Donc on revient sur les plus hauts, hein, quasiment sur un LVMH aujourd'hui, des niveaux de valorisation aussi qui avaient baissé avec la correction qu'on avait pu avoir, et puis des groupes qui avaient continué d'avoir des résultats solides, donc somme toute assez logique. Le pétrole aussi à l'honneur, hein, avec les stocks de pétrole américains qui baissent assez fortement, ces mesures de déconfinement qui font rebondir aussi un peu le baril. Donc voilà, en tout cas ces secteurs-là ont été bien orientés. Et puis au niveau macroéconomique, bon, des chiffres de l'inflation à 10% en Europe, un petit peu en dessous des attentes, bon, ça reste quand même très élevé. Et puis du côté des États-Unis, deux signaux divergents, les créations d'emplois un peu moins fortes que prévues, une croissance du PIB plus forte qu'attendue, et puis surtout ce soir, le discours de Jérôme Powell qui sera le point d'orgue des prochains jours.
Ça sera ce soir à 19h30, heure française, avant l'emploi américain. Ça sera vendredi après-midi. Les deux faits marquants qui nous attendent encore cette semaine. Franck Morel, depuis Zone Bourse, comment vous voyez la séance du jour? Et puis surtout, est-ce que vous êtes à l'aise avec les niveaux de marché actuels? 6700 points pour le CAC 40, un Hermès à 1500 euros. Julien le disait, un LVMH quasiment au plus haut historique à 737 euros ce soir. Stop ou encore?
Encore, et oui, on est très à l'aise, d'autant plus qu'on est investi pleinement depuis toujours, et qu'on a clairement rempli nos portefeuilles de valeurs du luxe, qui est vraiment la thématique dans laquelle, d'ailleurs, j'ai pas arrêté de le répéter, hein, mais en gros, on avait une vraie opportunité pour profiter des replis et des baisses de cours sur toutes les valeurs du luxe, avec des niveaux de valorisation qui avaient perdu 35% par rapport à des niveaux historiques médians. Donc on a eu des publications récemment qui ont confirmé le fait que c'était un business qui ne s'arrêtait pas, et que quand bien même on avait de l'inflation et des hausses de taux ou des ralentissements économiques, eh bien les acteurs du luxe surperforment et sont les meilleurs représentants du pricing power. Ils savent imposer leurs prix, augmenter leurs tarifs, et donc ils n'avaient pas souffert du contexte, il restait un potentiel à libérer avec un déconfinement, ou en tout cas un allègement des restrictions chinoises. Et donc, on commence à avoir des rumeurs ou des débuts de discours. La Chine étant le dernier pays au monde qui enferme les gens. On va avoir un nouveau potentiel de libérer sur les valeurs du luxe. Aujourd'hui, le secteur surperforme clairement et toutes les grosses exportatrices chinoises. Depuis 3 séances, le marché chinois a rebondi dans des proportions très importantes. Proportionnel évidemment au repli de ces derniers mois, mais on devrait avoir un volet, un nouveau potentiel de libérer grâce à la Chine. Et si en France, on n'a pas de pétrole, on a les valeurs du luxe. On est clairement les leaders mondiaux du bon goût. Donc on peut s'en féliciter et ça devrait tirer le CAC 40, lui permettre de surperformer les autres indices européens.
Mais est-ce que tactiquement, après un gain de 20% en deux mois, on n'a pas envie de s'alléger là sur les niveaux actuels? C'est la question que l'on entend beaucoup sur les marchés, qu'on entend sur ce plateau et que j'imagine tous les acteurs de marché se posent. Prendre ses bénéfices, après vous l'avez dit, des rebonds de 30% sur le luxe et de 20% sur un indice.
Je vous ai expliqué pourquoi je pensais qu'il y avait un nouveau potentiel qui allait être libéré, oui, notamment par l'assouplissement des mesures chinoises. Après, si vous regardez les révisions de bénéfices en Europe sur les 4 derniers mois, en Europe, les révisions de bénéfices sont positives, c'est-à-dire que les bénéfices attendus actuellement par les analystes pour les exercices à venir ont été revus à la hausse par rapport aux estimations qu'ils avaient il y a encore 4 mois. Ce qui est beaucoup moins vrai aux États-Unis, où on a pour le coup des révisions de bénéfices qui sont plutôt baissières, notamment sur toutes les valeurs largement exportatrices et toutes les valeurs de la tech. Et en fait, la conséquence est relativement simple, c'est l'évolution de la parité euro-dollar. Donc l'Europe a clairement bénéficié de la reprise, de l'affaiblissement de l'euro. Et là, on est sur des niveaux de prix importants à 1,04, 1,05 sur l'euro-dollar. Le mouvement de reprise en Europe qui a surperformé les US est clairement soutenu par les résultats des bénéfices. Alors après, au niveau technique, tactique, très court terme, on peut toujours essayer de faire mieux que le marché, mais d'expérience, on a meilleur temps d'essayer de jouer un coup plus loin et d'investir dans des dossiers solides, sachant que si vraiment on veut faire de l'analyse technique, on a une consolidation horizontale depuis 15 jours sous des niveaux de résistance très importants, et que généralement ce genre de situation se termine par le franchissement du niveau, puisqu'il a clairement été anticipé par le marché, le fait qu'il y avait un risque de correction, et c'est évidemment quand tout le monde attend la correction qu'elle n'a pas lieu, puisque les gens ne sont pas positionnés et qu'ils ont du cash à réinvestir. Donc non, je suis plutôt confiant et plutôt un partisan du rallye de Noël.
Bon, le message est passé en tout cas. Vous restez avec nous, Franck, on fait une très courte pause et puis on se retrouve dans un instant pour parler de Sanofi, de Trigano, de vos pépites. On sera bien sûr avec Julien Kistrebert qui est toujours avec nous en plateau après une courte page de pub. À tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse. On refait la séance.
On refait la séance encore pendant 10 minutes avec nos deux invités, Franck Morel, président de Zone Bourse, et Julien Kistrebert, directeur des investissements de Montségur Finance. On en parlait donc il y a un instant, CAC 40 qui est au plus haut depuis avril dernier, 6738 points, un gain de 1% ce soir à la clôture, plus 7,5% sur ce mois de novembre, et un indice qui perd plus que, entre guillemets, 6,7% depuis le début de l'année, grâce notamment au secteur du luxe. Mais il aurait pu faire mieux, Julien, si une valeur était dans le vert, une grosse pondération en plus, c'est Sanofi qui perd 1,9% avec le marché qui prend peur là parce que Sanofi est en discussion avec une biotech Horizon Therapeutics.
Oui, tout à fait. Donc, société irlandaise, cotée au Nasdaq. C'est un gros bébé quand même, puisque on parle d'une valorisation qui pourrait ressortir entre 20 et 30 milliards de dollars. Donc, pas une paille, quand même. C'est un dossier assez important. Donc même à l'échelle de Sanofi, c'est assez significatif. C'est vrai que le groupe aujourd'hui a un bilan qui est complètement désendetté, donc ça pourrait faire du sens pour eux d'aller chercher, en tout cas améliorer leur profil de croissance, qui explique une grande partie de la décote sur le dossier. Bien sûr, il y a le sujet du procès Zantac aussi qui est en cours, sur lequel on aura un peu plus de visibilité d'ici la fin de l'année, savoir si le Sanofi pourrait être concerné que par une période ou être exclu des procédures. Donc ça, c'est en cours de discussion. Mais c'est clair que Sanofi, en tout cas, a besoin de réécrire son histoire. Donc c'est deux grosses molécules dans le portefeuille, un médicament pour traiter la goutte, donc qui fait aujourd'hui 500 millions de chiffre d'affaires, qui devrait atteindre plus d'un milliard. Un autre produit sur les maladies oculaires thyroïdiennes qui fait à peu près 1,6 milliard de chiffre d'affaires et dont le pic de vente devrait atteindre les 4 milliards. Donc on a en tout cas un potentiel de croissance qui est assez significatif. Maintenant la question c'est le prix. On sait qu'il y a d'autres acteurs sur le dossier, il y a Johnson & Johnson, Amgen aussi qui regarde. Voilà, donc le marché s'inquiète peut-être du prix qui pourrait être payé, qui pourrait être entre guillemets surpayé, surtout que la dernière publication de la société était un peu décevante sur l'une des molécules en termes de croissance, seulement plus 6%, qui avait fait corriger le titre. Donc voilà, donc peut-être des débats là-dessus, mais en tout cas, oui, ça, dans l'absolu, ça fait du sens. Mais en général, quand vous faites une OPA, le marché, la première réaction, c'est plutôt de baisser en se disant, oui, il y a un risque de surpayer et est-ce que la croissance sera au rendez-vous.
Parce que Sanofi actuellement est très dépendant du Pixent, hein. C'est vraiment son traitement phare qu'il essaye de mettre sur différentes maladies et ça lui permettrait ce rachat de Horizon Therapeutics. Pour l'instant, il n'y a rien de fait, hein. On parle uniquement de discussions très préliminaires et le marché donc qui vend la nouvelle, moins 1,9%. On est repassé sous les 90 euros depuis quelques jours, 86,48 euros sur Sanofi. À l'inverse, hors CAC 40, il y a une publication qui a été particulièrement saluée. C'est Trigano, plus forte hausse du SBF 120, plus 6,8% à 119 euros. Franck Morel, on vous retrouve depuis Zone Bourse. Le marché qui achète cette publication avec un discours plutôt optimiste de Trigano dans cette publication.
Oui, effectivement. Donc la société a publié son chiffre d'affaires annuel, hein, la clôture son exercice fiscal en août. Donc on a eu les chiffres définitifs aujourd'hui qui correspondaient exactement au consensus. Donc pas de surprise sur la publication. Et c'est plutôt le discours du dirigeant sur les perspectives qui donne de l'entrain aujourd'hui. En gros, la société a su gérer les problématiques de logistique et de livraison des châssis avec lesquels elle fabrique ses camping-cars. Et donc l'horizon semble s'améliorer, s'éclaircir pour ce qui est des problèmes de livraison, puisque en gros ils ne pouvaient pas fournir la demande et donc la production était limitée par la livraison de ces châssis. Livraison qui devrait s'améliorer au cours de l'exercice à venir, à partir de cette fin d'année et sur, on va dire, sur les trois quarts de l'exercice prochain. Donc on va avoir des problèmes qui vont être réglés. On va pouvoir à nouveau fournir plus rapidement, alimenter plus rapidement la demande. Et puis la société a aussi su augmenter ses tarifs et gérer les problématiques inflationnistes. Comme il y a de la demande, j'ai envie de dire, c'est un peu l'essentiel. À partir du moment où le marché est porteur et structurellement demandeur, les résultats sont plutôt bons. Et c'est ce qu'on observe et c'est le discours clairement du dirigeant qui est optimiste aussi à long terme sur une demande structurelle. Alors ce qui est intéressant de voir pour Trigano, c'est que la société se paye 7 fois les résultats, ce qui est vraiment considéré comme une valeur value, deep value, une valeur cyclique, une valeur qu'on n'est pas prêt à payer cher. Or, manifestement, la société dans un secteur pourtant cyclique, vente de camping-car, ne subit pas les cycles économiques, mais elle a quand même la valorisation d'une valeur cyclique. Donc, il y a un potentiel de reprise important sur Trigano, d'autant plus que si on compare Trigano avec son leader, qui est donc le leader européen avec le leader américain qui est Thor Industries, vous avez 30% d'écart à peu près en termes de multiples de résultats entre Thor et Trigano. Donc, a priori, il y a un bon potentiel de reprise sur Trigano.
Et donc, vous êtes toujours à l'achat sur cette valeur qui est toujours en baisse depuis le début de l'année, rappelons-le, et qui est sur des niveaux de valorisation assez bas par rapport au marché actuel. Ça se paye quoi, 7-8 fois 2023, c'est ça?
Oui, c'est ça. 7 fois les résultats.
Cette fois les résultats. Julien Kistrebert, un avis peut-être sur Trigano?
Oui, tout ce qu'a dit Franck, je sais qu'il aime beaucoup le secteur des loisirs, enfin en tout cas la demande de loisirs. Donc, mais effectivement, c'est très solide. Il y a rien à dire. Hein, le carnet de commandes solide, comme il disait, leader. Le carnet, enfin l'activité pour 2023 est déjà sécurisée. Ils arrivent à passer des hausses de prix. Ils sont en train de résoudre le problème du châssis. Ils ont intégré Mercedes aussi pour un fournisseur de plus avec Stellantis et Ford. Donc voilà. Donc je dirais que c'est plutôt, et puis surtout un bilan très solide, 300 millions d'euros de trésorerie attendu pour mi-2023. Donc des potentielles acquisitions de distributeurs pour renforcer le business model encore.
Franck Morel, est-ce que vous avez une idée de pépite pour nos auditeurs, téléspectateurs en moins d'une minute là ce soir en cette fin d'émission?
Oui, bah écoutez, on peut si on s'intéresse au secteur du luxe et à une réouverture potentielle du marché chinois, eh bien on a l'acteur Rémy Cointreau qui nous permet d'être dans un business défensif de croissance et en même temps de miser sur un positionnement haut de gamme de luxe autour des spiritueux, secteur porteur par ailleurs. Je pense par ailleurs que le timing pour rentrer sur le titre est bon. Nous sommes nous-mêmes investis sur le titre. Donc Rémy Cointreau, ce sera ma pépite du jour.
Julien, une petite pépite.
La transition énergétique, EDP, donc l'acteur portugais qui a plus de 75% de son EBITDA qui est lié aux énergies renouvelables, solaires et éoliens.
Et avec un marché qui est très résilient en ce moment, hein. Il y a pas mal d'investissements.
Oui, effectivement.
Ils profitent de la hausse des prix aussi, peut-être.
Alors, ils peuvent en profiter parce qu'ils sont en train de... Enfin, il y a deux modèles. Il y a un modèle, évidemment, où au début, vous avez souvent des tarifs garantis.
Oui.
Et quand on arrive en fin de vie, vous rénovez en fait votre parc éolien et vous pouvez vendre au prix de marché. C'est ce qu'ils font. Et sur l'hydroélectrique aussi, ils ont arrêté les ventes à terme. Donc là aussi, pour avoir un effet de levier positif.
Voilà donc deux idées de pépites ce soir de nos deux intervenants, donc Rémy Cointreau et EDP du côté du Portugal. Merci beaucoup Julien Kistrebert, directeur des investissements de Montségur Finance. Merci également à Franck Morel qui nous accompagnait en vidéo, président de Zone Bourse. 17h55, dans un instant vous retrouvez Good Evening Business avec Audrey Tcherkov, avec Guillaume Paul. Et puis si vous voulez encore parler de bourse après 3 heures et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Julien Kistrebert qui vous accompagnera en cette fin de soirée sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, en live avec Amaury de Tonquédec. Très bonne soirée. Donc dans un instant, Good Evening Business.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.